Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. La RDC, qualifiée pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est après sa victoire hier sur la Guinée en quart de finale. Ainsi, les Congolais de Kinshasa et de Lubumbashi notamment espèrent que la RDC va remporter la CAN. Un hélicoptère de la MONUSCO a essuyé hier des tirs des présumés M23 vers Karouba dans le Nord Kivu. Bilan, 2 casques bleus blessés, dont un grièvement. La MONUSCO condamne fermement cette attaque. Elle réitère son appel au M23 à désarmer sans condition en respectant les termes du communiqué du 23 novembre dernier. Et puis, l'invité de ce matin, le lieutenant-colonel Kedani Mensa, porte-parole militaire de la MONUSCO basée à Goma. Il revient sur les activités de la MONUSCO à Logo en Ituri, ainsi que la gestion de l'afflux massif des populations quittant les zones de combat à Mweso et à Kichanga au Nord Kivu. Madame, messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par la qualification des léopards seniors, messieurs, de la République démocratique du Congo en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Les fauves congolais ont obtenu leur ticket après la victoire de 3-1 sur le Sili national de la Guinée, ce en match de quart de finale joué hier vendredi au stade olympique Alassane Dramane Ouattara. Comment les Congolais ont accueilli cette victoire? Voici l'ambiance qui a régné hier après le match dans ce reportage de Kanish Mukongo Fwani Kizi.
C'est au rythme de cette musique et concert de casseroles que les Congolais de Kinshasa ont célébré la victoire des Léopards au dernier coup de sifflet de cette rencontre. Tout a commencé par une douche froide avec le pénalty accordé à la Guinée par l'arbitre algérien Mustapha Grobal, converti en but à la 20e minute par Mohamed Bayo. Mené 1-0, les Congolais n'ont pas baissé les bras. Ils ont attendu seulement 7 minutes pour égaliser par les truchements du capitaine Chancel Bemba Mangoulou dans un cafouillage après les corners. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'entraîneur Sébastien Desabre opère quelques changements. Silas Katumpa remplace Meshack Elia. C'est donc à la 65e minute que les Congolais ont alourdi les scores avec un but signé Yohan Uissa sur penalty, 2-1 pour la RDC. Dominateur, les Léopards ont assommé leur adversaire avec le dernier but sur coup franc transformé par Arthur Massouakou à la 92e minute. 3-1, c'est le score final. L'attaquant Yohan Uissa était désigné homme du match et cela pour la deuxième fois depuis le début de cette compétition. La RDC se qualifie ainsi en demi-finale, 9 ans après avoir atteint ce niveau de la compétition lors de sa participation à la 30e édition de la CAN de 2015 en Guinée équatoriale. Et Léopard avait même ramené une médaille de bronze.
Et après la qualification des Léopards en quart de finale, les Congolais de Kinshasa espèrent que la RDC va remporter la CAN. On les écoute dans ces propos recueillis par Vanessa Kongolo.
Je suis très heureux, je suis très content. Merci. Ça fait 9 ans, on n'a pas connu la demi-finale. Pour la semaine, on y est. J'espère que cette fois, on va la gagner. J'espère vraiment. Vraiment, vraiment, nous sommes très contents de notre sélection. Enfin, on a une équipe qui peut rivaliser avec beaucoup plus de grandes nations en Afrique que ce soit en Europe. Là, vraiment, on est très contents. Merci aux Léopards. Mais bien évidemment, on sait très bien que dans cette CAN, il n'y a plus de favoris, il n'y a plus de statut. On peut faire la possible pour gagner cette CAN.
Ah, je suis trop contente et voilà, j'ai remercié le Léopard ainsi que les coachs de nous avoir bien entourés, voilà.
On est très contents, PNA, DC. 3-1, c'est beaucoup, hein. Oui, bien sûr, c'est à nous. On va gagner la CAN. Cette année, c'est notre année.
Nous, on est fiers de nous. Parce que, j'ai un peu la voix cassée, mais on est fiers de nous. On a quand même gagné 3-1, on est qualifié. On est contents, quoi, on célèbre.
À Lubumbashi également, la qualification des Léopards a été accueillie avec joie. Les Louchois se sont exprimés de différentes manières juste après le match qui a opposé la RDC à la Guinée. Désormais, ils disent que leurs regards sont tournés vers le trophée derrière lequel le pays court depuis 5 décennies. Jean Gando.
La victoire de la RDC a pris du temps avant de se dessiner. Le but encaissé sur pénalty était loin de décourager certains louchois qui s'étaient agglutinés devant les postes téléviseurs placés à l'entrée d'un bistrot situé au quartier Gambela dans la commune de Lubumbashi. Et l'égalisation du capitaine Chancel Mbemba a donné du baume au cœur de ce public qui n'attendait pas autre chose que cela. Le deuxième et surtout les chefs-d'œuvre et anecdotiques troisième but d'Arthur Massouakou est venu rassurer le public qui avait peur de voir les séries nationales revenir au score. Et les sifflet final, synonyme de la qualification des Léopards, a une fois de plus été accueilli avec enthousiasme par les Louchois qui ne se sont pas empêchés de descendre dans la rue pour manifester leur joie au rythme de... Dans ces circonstances, il est difficile de contenir ses sentiments.
Je suis très content. Vive la RDC. Félicitations à nos vaillants héros.
Ah, je suis très heureux. Je suis très sûr qu'on va ramener la coupe à la maison.
Nous sommes très contents. L'entraîneur guinéen qui nous a dit que nous allons chicoter la RDC, les retourner avec les chicoter au pays. Vive la RDC!
Vive la RDC et allez-y les Léopards. Cette coupe nous appartient. Toro Toro. Toujours.
Toro Toro.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
La RDC qualifiée en demi-finale après sa victoire sur la Guinée, le coach Sébastien Desabre s'est dit trop fier de ses joueurs. Ses propos ont été recueillis par Vanessa Nkongolo.
Et on avait fait des matchs nuls, là on gagne le match par deux buts d'écart. La Guinée nous a posé quand même pas mal de problèmes tactiques au départ avec Keïta. Et puis on a rectifié. Après le match en fait s'est joué pratiquement sur des coups de pied arrêtés parce que tous les buts sont sur coups de pied arrêtés. On sait l'importance des coups de pied arrêtés au niveau du football. On a des bons tireurs, on les travaille. On était un peu déçus parce que avec les tireurs et l'engagement qu'on met, on n'était pas récompensé. Là on y est. Tant mieux, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une étape supplémentaire à bien récupérer et puis on va penser à la suite. Je peux redire la même chose que contre l'Égypte, je suis extrêmement fier de mes joueurs. Quand vous êtes mené 1-0 en quart de finale et que vous gagnez 3-1, ça veut dire que vous avez certaines certitudes dans le jeu et d'unité de groupe.
Je vous l'ai dit dans les titres, un hélicoptère de la MONUSCO effectuant une évacuation sanitaire a essuyé des tirs des présumés rebelles du M23 aux environs de Karouba, dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Cette attaque a blessé deux casques bleus, dont un grièvement. L'appareil a pu atterrir en sécurité à Goma et les deux blessés médicalement pris en charge. Au nom de la MONUSCO, la chef de la mission, Madame Bintou Keïta, souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Madame Keïta condamne fermement cette attaque contre un aéronef porteur de l'emblème des Nations Unies qui survient presque un an, jour pour jour, après un assaut similaire ayant coûté la vie à un casque bleu sud-africain. Elle déplore également les attaques inacceptables ciblant les civils depuis l'intensification des combats dans le Nord Kivu. Madame Keïta réitère son appel au M23 à cesser les hostilités et à désarmer sans condition en respectant les termes du communiqué du 23 novembre 2022. Des menaces ont été directement proférées ces derniers temps contre la MONUSCO et ses casques bleus par le M23. La chef de la MONUSCO rappelle à cet égard que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre. La mission invite les autorités judiciaires congolaises à traduire en justice les auteurs de cet acte. La mission rappelle l'urgence et la nécessité de mettre fin à de tels agissements pour une mise en œuvre sans entrave de son mandat de protection des civils. Entre-temps, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé hier à Beni, dans le Nord Kivu. C'est dans le cadre de sa visite au Congo du 1er au 7 février. Jean-Pierre Lacroix commence ainsi sa visite dans l'Est du pays. En plus des discussions avec les autorités provinciales, la société civile et les leaders communautaires, la MONUSCO et le personnel de l'équipe pays des Nations Unies, la délégation qu'il conduit visitera une base de la MONUSCO dans le Sud Kivu qui sera transférée aux autorités congolaises dans les prochains jours, dans le cadre de la première phase du retrait accéléré de la mission onusienne. Jean-Pierre Lacroix rencontrera ensuite le président Félix-Antoine Tshisekedi, récemment réélu, afin de renforcer l'excellente collaboration établie entre les Nations Unies et les autorités congolaises dans le cadre du désengagement de la MONUSCO. Au Nord Kivu, nous apprenons que des dégâts collatéraux continuent à être enregistrés à la suite des combats qui opposent les FARDC et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23 dans le Massissi et le Rutshuru. 3 personnes grièvement blessées et 2 maisons détruites hier après-midi au quartier Mugunga situé à l'ouest de la ville de Goma. Le porte-parole militaire a affirmé dans une courte déclaration hier soir que la bombe a été tirée par les rebelles du M23 à partir de la colline de Kagano. Sans plus de détails, les blessés ont été conduits à l'hôpital CBC Andosho, affirme un cadre de base de Mugunga. Par ailleurs, des combats à l'arme lourde enregistrés toute la journée de vendredi dans le Buito ont occasionné également une explosion d'une bombe à Mueso sans faire des victimes, mais aussi à Karima, une localité qui accueille des déplacés dans la région de Mutanda. La situation est donc restée tendue sur plusieurs axes. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Les combattants Mai Mai, candidats au désarmement du site de Kasando à Kirumba, ne sont plus ravitaillés en vivres depuis 4 mois par le gouvernement. Après plusieurs plaidoyers sans suite auprès des autorités provinciales et nationales, le bourgmestre de la commune de Kirumba s'est résolu à mobiliser la population pour une assistance à ces combattants. La semaine dernière, la communauté a ainsi remis plus de 500 kilos de vivres aux locataires du site PDDRCS de Kasando. Eric Massinda, chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans le territoire de Lubero, salue ce geste de solidarité et appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Il a été joint par Sadiq Aboubakar.
Nous saluons la population de Kirumba et le bourgmestre de la commune de Kirumba qui assistent à mobiliser la population de Kirumba pour récolter et les vivres pour les ex-combattants de Kasando à Kirumba. Vraiment, nous saluons cette bravoure. Et cette population a collecté 600 kilos de farine de manioc et 30 kilos des haricots. C'est à saluer et à féliciter. Et cela est l'implication personnelle du bourgmestre de la commune de Kirumba. Et voilà, et la population maintenant est en train de supporter le poids du gouvernement. Et si nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, qui est le président du comité de pilotage du PDDRCS, c'est lui qui a la philosophie et la logique du PDDRCS, la présidence de la République comme institution.
Direction l'Ituri. La situation humanitaire est préoccupante dans le site des déplacés de la plaine Savo. Nous sommes à environ 110 km au nord de la ville de Bunia, dans le territoire de Djougou. Au moins 90 personnes sont mortes en l'espace de 3 mois suite aux problèmes de malnutrition dans ce site, précise le président de ce campement. Emmanuel Ndalo ajoute que de nombreuses familles sont sans abri, des abris détruits à la suite des intempéries. Il alerte le gouvernement et les humanitaires pour une intervention urgente en faveur de ce sinistré. Il est au téléphone de Ezekiel Mouzalia.
Nous avons vraiment d'énormes difficultés que nous sommes en train de vivre dans le site déplacé de Plaine Savo. Depuis le mois de novembre, nous avons enregistré 87 personnes mortes. Nous perdons vraiment nos frères, nos femmes, nos grands-pères, nos femmes qui sont enceintes, qui allaitent, qui meurent. Alors vraiment, c'est une condition de vie très, très risquable pour notre communauté. Ceci nécessite aussi la construction des abris d'urgence, de construire des abris d'urgence pour nous protéger jusqu'à notre retour. L'assistance même ne couvre pas tous les déplacés qui vivent dans les sites de déplacement. Notre communauté est exposée à une extermination. Alors mieux vaut qu'on retourne dans notre village d'origine.
Dans l'actualité aussi, la prestation de serment hier vendredi des magistrats du ministère public du parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu. La cérémonie s'est déroulée sur place. Reportage de Greta Lulendo.
Au total, 93 substituts du procureur ont prêté un serment professionnel. Parmi eux, 3 anciens magistrats qui ont renouvelé leur engagement. Ils ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République. Cette cérémonie annonce les débuts de leur travail en tant que magistrat. Divine Lomingo, nouvelle substitute du procureur.
Je suis très contente et je rends premièrement grâce à Dieu pour cette cérémonie de prestation de serment. Cette cérémonie signifie pour nous un début de notre carrière dans la magistrature.
Et quelles sont les étapes à suivre pour devenir magistrat? Réponse de Divine Lomingo.
Nous avons tout à débuter par rapport à un concours et puis après il s'est fait de sélection par rapport à ceux qui avaient réussi et puis après on avait été nommé.
L'un de ces 93 nouveaux magistrats explique à quoi consiste le travail d'un magistrat, Roland Cambilo.
Nous avons d'abord pour mission de pouvoir rechercher les infractions, en poursuivre les auteurs et les déférer devant les cours et tribunaux. Donc le rétablissement de l'ordre social après les faits perpétrés par des criminels qui troublent l'ordre social au sein de la société et nous avons pour mission de pouvoir rétablir en effet cet ordre.
Notons que les cérémonies de prestation de serment se poursuivent à travers tout le pays pour le 2500 substituts du procureur nouvellement nommé par ordonnance présidentielle.
Actualité internationale.
Nous sommes au Kenya. Le bilan des victimes de l'explosion d'un camion chargé de gaz dans la capitale Nairobi s'alourdit. L'inspecteur général adjoint de la police a fait le point hier sur cet incendie qui a enflammé un entrepôt de textiles et qui a atteint plusieurs maisons et magasins du quartier. Les pompiers parcouraient la zone brûlée dans la matinée d'hier à la recherche d'éventuelles victimes. Des recherches sont en cours pour savoir s'il y a des corps qui ont été brûlés dans diverses maisons. Des responsables du gouvernement du comté ont été accusés d'avoir accepté des pots de vin pour ignorer les codes et réglementations du bâtiment.
L'invité.
La campagne médicale conduite par les unités de la MONUSCO à Logo et qui a pris en charge au moins 107 personnes civiles dans le territoire de Djougou en Ituri, mais aussi la gestion de l'afflux massif de plus d'un millier de populations quittant les zones de combat à Mueso et à Kichanga au Nord Kivu. Voilà entre autres les activités sur lesquelles revient le lieutenant-colonel Kedani Mensa, porte-parole militaire de la MONUSCO basée à Goma. C'est dans le cadre de l'exécution du mandat de la mission visant la protection des civils dans l'est de l'RDC. Le lieutenant Kedani Mensa, notre invité, s'entretient avec Jules Ngala.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes porte-parole militaire de la MONUSCO. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à la campagne médicale conduite par les unités de la MONUSCO déployées à Logo?
Le 18 janvier 2024, une campagne médicale a été menée dans le village de Logo, situé dans le territoire de Djougou. 33 hommes, 48 femmes et 26 enfants, soit un total de 107 patients, ont bénéficié de consultations gratuites et de dons de médicaments au regard de leurs pathologies respectives.
Dites-nous maintenant ce qui s'est passé à Ngité le 23 janvier 2024.
Le 23 janvier 2024, des coups de feu ont été entendus près du village de Ngité, et qui serait tiré par les hommes du groupe armé ADF. Les forces de la MONUSCO, notamment celles du bataillon tanzanien, ont envoyé immédiatement une patrouille dans le village de Ngité, où il avait été signalé que des éléments présumés des ADF avaient lancé une attaque vers ce village dans le but d'en prendre le contrôle. Le bilan de cette attaque se présente comme suit. 3 hommes civils ont été tués et un jeune homme d'environ 25 ans qui a été kidnappé durant l'attaque a eu l'occasion de s'évader. Cette situation a provoqué un déplacement des populations de Ngité vers Beni qui craignent une éventuelle attaque des ADF. Les forces de défense et de sécurité congolaises locales ont contribué en étroite collaboration avec les forces de la MONUSCO à mettre en déroute ces groupes armés et reprendre le contrôle de la région. Les patrouilles MIS ont été poursuivies dans le village et ses alentours en vue de s'assurer du contrôle de la zone et fournir une protection aux populations civiles.
Et maintenant, comment la MONUSCO a-t-elle géré l'afflux massif des populations quittant le secteur de Mueso?
Le 26 janvier 2024, les casques bleus de la MONUSCO ont soutenu les populations locales de Mueso dans leur déplacement vers une zone sécurisée en vue d'atténuer les multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées dues aux affrontements armés entre les forces gouvernementales congolaises et le M23. Ce soutien est fait par la fourniture de protection et d'assistance indispensable aux personnes déplacées. Plus d'un millier de personnes déplacées ont été regroupées dans des zones plus sécurisées sous la protection des casques bleus de la MONUSCO déployés à Mueso.
Oui, que pouvez-vous nous dire maintenant de l'assistance faite par la MONUSCO à la population de Kichanga?
26 janvier 2024, à la suite des récents affrontements armés dans les régions de Mueso et de Kichanga. De nombreuses personnes venant de ces villages se sont réfugiées près de la base de la MONUSCO de Kichanga. Les casques bleus marocains déployés dans cette région ont fourni un abri à ces personnes déplacées, dont ils assurent la sécurité. De même, il est à noter qu'ils leur fournissent de l'eau potable, des soins médicaux et du soutien psychologique.
Et peut-être pour finir, qu'est-ce qui s'est passé le 26 janvier 2024 dans la commune de Moulongwe?
Le 26 janvier 2024, la MONUSCO a été informée de l'assassinat d'une femme dans le quartier Apollo, dans la commune de Moulongwe, par un groupe de bandits armés non identifiés. Selon les informations reçues, ces hommes armés sont entrés par infraction chez la défunte et l'ont abattu froidement avant de disparaître. Elle n'aurait pas été interrogée ni volée. Ce sont les coups de feu qui ont alerté les voisins. Malheureusement, les présumés assassins ont quitté les lieux avant leur arrivée. L'officier de renseignement du bataillon d'intervention des FARDC a reconnu avoir été alerté et s'est porté sur les lieux avec une équipe de patrouille de nuit. Les casques bleus déployés dans la région ont envoyé une patrouille motorisée dans le quartier aussi, en vue de contribuer à l'interdiction des activités criminelles pour une meilleure protection de la population.
Ok, lieutenant-colonel Kedani Mensa, Radio Okapi vous dit merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Le porte-parole militaire de la MONUSCO basée à Goma répondait aux questions de Jules Ngala. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Coordination de Nola Luzitu, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci, restez de notre.